Comme nous l'avons déjà dit, nous avons une invitée aujourd'hui, mais ce n'est pas une invitée, elle est chez elle. Peut-être tout le monde ne connaît pas évidemment Hélène Viennaire. Hélène a grandi ici, nous sommes son église, l'église de son enfance, de sa jeunesse, et elle est ensuite partie parcourir le vaste monde, et la voilà avec nous ce matin, pour nous présenter sa thèse de doctorat en théologie. Alors, c'est sûr, là, vous me dites, aïe, aïe, aïe. Je lui ai donné 5 minutes pour résumer plusieurs années de travail. Elle va y arriver, elle me l'a promis. À 30 secondes près, tu m'as dit, voilà. Et donc, c'est notre fierté, à nous tous, d'accueillir la nôtre parmi nous. C'est elle qui apportera la prédication tout à l'heure. Mais je tenais à ce que tu présentes en quelques mots ta thèse maintenant, ta thèse de doctorat, qui a été soutenue à Strasbourg l'année dernière et à laquelle plusieurs d'entre nous, la soutenance, étaient présents.
Bonjour, je suis ravie d'être avec vous ce matin et je suis très honorée que vous m'ayez invitée et je vous remercie. Il y a un mois et demi, je donnais une conférence dans l'église qui m'a accompagnée pour mes dernières années d'études. Et aujourd'hui, je me trouve dans l'église où tout a commencé. Mes parents se sont mariés ici, il y a presque 50 ans. J'ai été à l'école du dimanche ici. Je me souviens qu'une de mes monitrices est venue me voir lorsque je préparais ma thèse et m'a dit « Oui, moi je t'ai fait l'école du dimanche quand tu avais 3 ans ». D'un air de dire « J'y suis pour quelque chose, pour ta thèse ». Elle n'avait pas tort, vous y êtes pour quelque chose. Je me suis construite ici, vous m'avez construit. J'ai été baptisée, pas ici, mais là-bas, il y a 35 ans. Juste pour vous donner un coup de vieux, j'en ai 47 aujourd'hui. Et vous connaissez tous mes parents. Robert et Elisabeth qui sont parmi vous. Vous m'avez aussi envoyé comme missionnaire il y a 25 ans avec Opération Mobilisation. J'ai travaillé là-bas pendant 5 ans. Vous avez été un soutien sans faille dans tous les domaines, financiers, la prière, l'exhortation, le soutien. C'est une grande reconnaissance aussi que nous ayons pu vivre cela ensemble. Et puis depuis, j'ai continué à avancer avec le Seigneur. Et il m'a conduite en 2005 à entreprendre des études de théologie. Et pour mener à bien ces études, le Seigneur m'a donné un travail professionnel que j'ai occupé pendant 13 ans et demi. Et en 2017, j'ai fini ces études en soutenant une thèse à l'Université de Strasbourg. Et je suis docteur en théologie protestante. Mais je n'ai pas changé. J'ai été ravie de saluer une grande partie d'entre vous avant le culte. J'espère en saluer encore après. Ce que ça change, ces études et ce titre, eh bien, c'est d'avoir un titre. Mais qui je suis, je suis la même. J'espère que vous êtes les amis d'avant. Et c'est important, parce que c'est vrai que beaucoup de gens regardent et disent « docteur en théologie, on ne va pas oser lui parler, on ne sait pas ce qu'elle va nous répondre ». Mais vous me connaissez, donc vous n'avez pas besoin d'avoir cette peur-là. Une fois les études finies, ça va faire plus que 30 secondes.
C'est pas grave.
Une fois les études finies, il était normal que je change de statut professionnel, et de nouveau le Seigneur a répondu. Il m'a donné un travail et un logement, et je me sens bien dans les deux. Et au 1er février 2019, je suis assistante de direction à la Fondation La Cause, qui est une œuvre parmi les handicapés visuels, parmi l'enfance, les solos, les duos, et il y a aussi les éditions. Alors je vous ai apporté des journaux, ils sont là-bas sur le fond, il y a un petit article où je me présente avec une petite photo de moi. Je vous ai aussi amené une présentation plus détaillée des départements. Le titre, c'est « Souriez, vous n'êtes pas seul », c'est vraiment ce que fait la cause, ne pas laisser seuls ceux qui pourraient se sentir seuls. Et je vous ai amené un extrait du catalogue de livres, parce que les livres, vous savez que c'est important, pas que dans la famille, c'est important en général. Je ne rentre pas à Paris avec ces journaux, donc servez-vous, il y en a assez pour tout le monde. Et j'en profite aussi pour remercier tous ceux et toutes celles qui ne m'ont pas oublié au fil des années, qui continuent de prier. Chaque fois qu'on se croise, ils me le disent, et je sais que c'est vrai. Le Seigneur est fidèle, c'est certain. Il se plaît à nous entendre, lui apporter nos besoins, il se plaît aussi à y répondre. Et je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à vivre cette relation avec le Seigneur, et je lui rends grâce et gloire pour ça. La thèse, je n'ai pas besoin de 5 minutes pour la présenter, donc j'ai travaillé pendant 6 ans. J'ai travaillé donc pendant 6 ans sur le papyrus sur la franchise de Philodème de Gadara. Philodème de Gadara, c'est un philosophe épicurien du 1er siècle avant Jésus-Christ. J'ouvre une parenthèse qui sera aussi utile pour la prédication. Pour faciliter l'ensemble de mon exposé, je vais utiliser un vocabulaire spécifique. La raison en est la suivante, quand on dit franchise, on a tous une idée de ce que c'est, mais on a une idée du 21e siècle. Ce qui est normal, nous sommes du 21e siècle. En revanche, ce dont je vais parler, c'est la franchise du 1er siècle avant et après Jésus-Christ. Ce n'est pas la même franchise. Et en grec, puisque tous les textes dont je vais vous parler ont été écrits en grec, la franchise se dit paresia. Alors, je ne vais pas parler de paresia, je vous en fais grâce, je vais utiliser le mot franchise à chaque fois. Par contre, pour dire celui qui parle franchement, je vais dire le paresiaste. Et pour parler de quelque chose qui a un rapport avec la franchise, je vais utiliser l'adjectif paresiastique. Après traduction et analyse du traité, donc ça m'a pris 6 ans, j'ai découvert que le mot franchise ou parler franchement du temps de Philodème de Gadara, puisque la notion de l'Antiquité, c'est convoquer tout un monde avec ses interlocuteurs, c'est-à-dire le paresiaste et son ou ses auditeurs, son contexte et sa manière de faire. Donc juste le fait de dire franchise, les gens qui l'entendaient ou qui le lisaient, il savait qu'il devait y avoir tous ces éléments autour. Puis, j'ai consacré une année à vérifier si Luc, l'auteur des Actes des Apôtres, utilisait la franchise comme Philodème. Et la réponse, je vous donne là la conclusion de la thèse, est clairement et sans aucun doute oui. Alors, quelles conséquences est-ce que cela a ? Eh bien, ce traité-là, sur lequel j'ai travaillé, était inconnu jusqu'ici. Nous avons donc de nouveaux éléments pour comprendre certains textes du Nouveau Testament, les textes où il est question de franchise. Alors, ce terme est présent 42 fois dans les actes, dans le Nouveau Testament. Et il est présent 14 fois dans les Actes, où Luc raconte les débuts de l'Église primitive. Si vous avez l'habitude de lire la Bible, vous êtes peut-être un peu étonné, en fonction de la version que vous utilisez, parce que vous n'avez pas l'habitude de croiser le mot franchise ou parler franchement. Et je pense que pour les premiers lecteurs du Nouveau Testament, c'était évident ce que ça voulait dire franchise. Le petit schéma que je vous ai montré, pour eux, ils le voyaient. Puis petit à petit, ça s'est perdu. Et d'ailleurs, c'était évident, aucun des auteurs du Nouveau Testament ne l'explique. Ils l'utilisent, mais ils ne l'expliquent pas. La foi, ils expliquent ce que c'est, Hébreux 11, 1. Mais la franchise, ils ne donnent pas d'explication. Le sens s'est un peu perdu et les traducteurs actuels ont essayé de traduire le terme en tenant compte du contexte. Et donc, au lieu de parler de franchise, ils ont parlé d'assurance, de s'affirmer, de parler avec hardiesse. Ils ont dit être confiant, être libre, parler ou agir ouvertement, parler ou agir publiquement. Mais aucun de ces termes ne rend vraiment compte de ce dont je vous ai parlé. Alors que on peut très bien, et ça je l'ai démontré dans la thèse, chaque fois traduire le terme par franchise ou parler franchement. Et non seulement traduire par franchise et parler franchement, mais retrouver dans chaque texte toutes les caractéristiques de la franchise de Philodème de Gadara, qui du coup devient très semblable à la franchise de Luc dans les Actes des Apôtres. Voilà les très grandes lignes d'un travail de quelques années. Alors, je suis à votre disposition si vous avez des questions, bien entendu. Et je vous répondrai avec plaisir. Et on se retrouve tout à l'heure pour la prédication où on va creuser un texte, justement, sur ces bases-là.
Merci beaucoup Hélène, ça nous donne envie d'écouter la suite. Et puis j'informe que, évidemment, la bibliothèque de notre Église a un exemplaire de la thèse d'Hélène dans ses rayons, bien évidemment.